Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Lanterne Magique, un podcast des passionnés de cinéma et de ceux qui font le cinéma. Désolé pour la dernière, le mois de décembre, parce que malheureusement nous étions en vacances et je me rattrape aujourd'hui. Et là, nous allons interviewer un invité un peu particulier qui n'est pas, on va dire, dans le sérail, mais qui est tout aussi passionné que ceux qui en font leur métier. Alors, bonjour Jérémy.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Alors oui, moi c'est Jérémy. Je travaille en tant que employé de cafétéria dans une école de cinéma, précisément. Et c'est pas anodin. Je suis entouré de jeunes qui veulent en faire de ce métier aussi, tant dans la réalisation, dans le montage, comme dans l'image. Et voilà, et très sincèrement, voilà, je suis passionné depuis mon plus jeune âge. Et même si je pouvais, à côté, je fais mes petits projets. Mais voilà, rien de bien professionnel non plus, mais j'espère que ça arrivera.
Et ça fait combien de temps que tu es dans cette école ? D'ailleurs, comment elle s'appelle, cette école ?
Alors, je travaille à l'ESRA, et ça va faire depuis 8 ans que je travaille à l'ESRA.
C'est une école prestigieuse, à ce que je sais. J'en sais quelque chose parce que j'en sors, mais ça fait un peu m'as-tu vu de dire « Ah, l'ESRA, c'est la plus grande école privée.
Hein, » Privée.
Parce que c'est le pendant privé de la principale école de formation audiovisuelle publique, la FEMIS.
Oui. Après, voilà, en termes de privé, oui, l'ESRA est dans les plus prisés, oui. Et bien sûr, elle possède plusieurs endroits, c'est-à-dire il y a Paris, il y a aussi à Lille, il y en a une à Bruxelles, une à Nice et à New York, bien entendu.
Alors, celle de New York, c'est tout récent, en fait
Non, ça a quand même quelques années, celle de New York, hein, ça remonte quand même, hein, c'est-à-dire elle existait déjà quand je suis arrivé ici, donc c'est pas si récent que ça. Ça au moins, oui, ça devrait avoir 15 ans quand même, je pense.
Mais ça s'est officialisé vraiment là, tout récemment, hein.
Oh non, du tout.
Ah bon,
Non, il existe quand même des gens qui en parlent, des gens qui en vont tous les ans, même des amis à moi qui, en fait, faisaient l'ESRA. Je travaillais pas encore à l'ESRA, mais eux, ils étaient à New York aussi. Donc non, c'est quand même, c'est pas si récent que ça.
Mais au moins, on voit qu'il y a un rayonnement international désormais à l'école, c'est-à-dire que, au fond, la FEMIS, qui est très connue, oui, elle n'a qu'un rayonnement national, alors que oui, l'ESRA, elle, au contraire, c'est de par le monde qu'elle a une vitrine.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que même l'ESRA accueille une section internationale, avec des gens issus de plusieurs pays différents. Qui ont les mêmes cours que les autres élèves aussi, bien entendu, mais plus en anglais. Mais il existe quand même un rayon international.
Très bien. Et je voulais savoir donc, comme tout passionné, il y a bien un film ou une série qui t'a fasciné, puis qui t'a orienté quelque peu vers ce monde qui nous passionne tous, qui est l'audiovisuel.
Oui, bien sûr. Bien sûr, ça c'est. Je pense que tout passionné a un peu une référence comme ça et a toujours eu un truc qui lui a donné envie de faire ça, de vouloir faire ce rêve, de se dire ah mais quand je serai grand je veux faire ça. C'est oui, il en existe bien entendu, que ça soit dans Star Wars par exemple ou les Blues Brothers ou Last Action Hero. Voilà, ça fait partie de ces films qui me procurait une grande fascination quand j'étais enfant.
Elle est assez éclectique, ta passion. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de titres, je dirais, que tu pourrais sortir en référence. Mais celui qui vraiment te donne vraiment la pêche, je dirais, c'est Last Action Hero. Hein.
C'est Last Action Hero, oui, carrément. Parce que c'est... Je ne sais pas si ça arrive à beaucoup de personnes, mais moi, c'est mon cas. C'est-à-dire que je me souviens encore de la première fois, quand je l'ai regardé ce film-là, quel était le contexte, comment c'était. C'est-à-dire que moi je me souviens que c'était un mardi soir sur TF1. c'était un mardi soir sur TF1, c'était en inédit. Et moi, quand j'étais enfant, mon héros, c'était vraiment Arnold Schwarzenegger. Et quand il y avait un film avec Arnold Schwarzenegger, il fallait que je le regarde. Et là, c'était l'occasion. J'étais gamin, je devais avoir quoi, 6-7 ans. C'était un mardi soir, ciné mardi, TF1. J'avais pas école le lendemain vu que c'était mercredi, donc j'ai regardé le film. Et je me souviendrai à jamais de l'effet que ça m'a fait quand je l'ai vu, ce film. Et même encore aujourd'hui, le souvenir que j'en garde.
C'est un trésor précieux, je dirais, et c'est au fond ce qui édifie nos jeunes années. Hein.
Mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire que même, voilà, quand j'étais gamin, en tant que grand passionné d'Arnold Schwarzenegger, je me retrouve dans un film où justement Schwarzenegger est là et le grand héros. Et on a aussi le fait qu'il y ait un enfant qui l'accompagne tout le long du film. Un peu où j'étais gamin.
Il est parti, Samuel ?
Voilà, je sais. Non, et en fait, je me retrouve dans un film où il est accompagné d'un enfant. J'avais déjà vu Terminator 2, hein, c'est pour vous dire. Hein, j'étais très jeune quand je l'ai vu, Terminator 2, il y a des trucs qui sont pas passés.
C'est pareil, j'avais 10 ans à peine, et c'est vrai que. Et là aussi, c'est pareil, je me souviens du moment où je l'ai vu. C'était un samedi soir, en famille, puisque mon père l'avait acheté en VHS. On était scotchés tous les quatre dans la pénombre devant la télé, qui était la vieille cathodique, la vieille brante.
Oui, la vraie, oui.
Et puis, la claque, quoi. En fait, j'avais 8 ans quand j'ai vu le premier, et puis j'ai vu ensuite le jugement dernier, et là, vraiment, ça a été la claque visuelle. En fait, avant Jurassic Park, c'était vraiment le film à effets spéciaux, spectaculaire.
En fait, en ce qui me concerne, sur Terminator 2, moi j'ai fait les choses à l'envers. C'est-à-dire, j'avais vu le 2 avant de voir le premier. Et donc, quand j'ai vu le premier, j'étais un peu traumatisé de voir que mon héros était le méchant. Et voilà, mais ceci dit, voilà, Terminator, j'aime beaucoup aussi.
Par contre, c'est vrai que ça a été le summum. Parce que le 3, bon, ça n'a pas vraiment été une réussite.
Quoique le 3, je le déteste pas. Mm-hmm. C'est. Il est malgré tout sympathique. Mmh. Mais voilà, c'est plus James Cameron, c'est plus la même chose. C'est, voilà, non, Terminator 2, ça reste le summum à ce niveau-là. Effectivement, en termes de film Terminator, on n'a jamais fait mieux, hein, depuis.
Donc, c'est vraiment les films de Schwarzenegger qui ont été, pour toi, les plus marquants. C'est-à-dire que vraiment, c'est du cinéma à l'état pur, de l'action, de l'aventure. Et puis du spectaculaire. Hein,
oui, il y avait quand même quelque chose comme ça avec Arnold Schwarzenegger. C'est pour te dire que même quand j'étais gamin, j'avais quand même du mal à faire le rapprochement que c'était lui dans Jumeaux.
Ah oui.
J'en étais là parce que c'était pas vraiment dans son style, hein, avec Danny DeVito. Et effectivement, moi j'aimais bien son côté homme d'action, homme costaud, qui fonçait dans le tas, mais qui avait quand même une forme de vulnérabilité, qui paraissait malgré tout humain. C'est ça que j'aimais bien aussi chez Schwarzenegger.
Parce que, à l'instar de certains acteurs, que ce soit aux États-Unis ou en France, il a mis du temps à percer.
Du temps à percer, oui, quand même, mais.
Parce que des films comme Le Contrat n'ont pas eu un si grand succès.
Non.
Et puis, même.
Ce qu'il a fait avant Conan le Barbare, par exemple, on a tous un peu oublié tout ce qu'il a fait avant Conan le Barbare. C'est, on va dire, pour beaucoup de gens, la carrière de Schwarzenegger commence à partir de Conan le Barbare. Mmh. Alors qu'il avait quand même fait quelques films avant, même, bon, pas que des bons films, hein, voire la plupart des très mauvais.
Ah bah j'en ai un en tête.
Hercule à New York.
Hercule à New York, oui.
Hercule à New York, bien entendu. Mais il avait fait quand même des films sympathiques, comme Cactus Jack avec Kirk Douglas, ou bien Stay Angry avec Jeff Bridges, entre autres, sur le monde des culturistes.
Il a même été le personnage d'un des épisodes d'une série emblématique des années
80. De Miami Vice, il me semble.
Alors, je pensais à une autre série qui a révélé d'ailleurs Michael Douglas,
Les rues de San Francisco.
Et dans une interview qu'il avait accordée, Arnold Schwarzenegger était très fier d'avoir jouer aux côtés de Karl Malden, qui pour lui était un monstre du cinéma américain, hein, qui pourtant, en dehors de cette série, avait surtout été un second rôle au cinéma.
Oui, ben, c'est ça en fait, Karl Malden, quand on parle de lui, on parle des rues de San Francisco, on ne parle de aucun des films véritables qu'il avait fait. Et effectivement, quand on le voyait, c'était souvent, voire quasiment tout le temps, des seconds rôles. Mais oui, après je peux comprendre la fierté de Schwarzenegger de se retrouver là-bas. C'est, on va dire, le gars autrichien qui part de rien, qui se retrouve à jouer dans une série américaine. Bah, c'est cool pour lui, mais il me semblait aussi qu'il avait été dans un épisode de Flic à Miami, mais maintenant je suis pas vraiment sûr.
Moi je ne m'en souviens pas parce qu'en fait, bizarrement, j'ai plus vu les rues de San Francisco que Miami Vice.
Oui. Ouais, non, et je me souviens aussi dans Les Contes de la Crypte.
Ah oui, effectivement.
Dans Les Contes où il réalise un épisode et il joue, il présente l'épisode avec le gardien de la crypte. Et ça, ça m'avait marqué aussi.
Et là, tout récemment, on peut le voir en fait dans la pub de promotion du jeu Wargame World of Tanks.
Et aussi dans une pub où il fait Zeus pour des voitures. Et plus récemment aussi, j'étais tombé dessus par hasard, il jouait dans un épisode de Mon Oncle Charlie. Mmh. C'est voilà, comme quoi il y a différentes choses. Hein, c'est, voilà. Mais là, on est plus sur le Schwarzenegger après la Californie, après le gouverneur de Californie, ce qui n'est pas le plus glorieux, on va dire.
Le problème, c'est qu'on ne peut pas être et avoir été. Et, il y a effectivement cette période, cet âge d'or, je dirais, des années 80 avec des films d'action spectaculaires, comme ceux qui ont marqué la plupart de ceux de notre génération, qui a 30-40 ans. Hein,
ouais.
Et puis les films que l'on peut faire aujourd'hui, qui sont parfois, peut-être que tu seras d'accord avec moi, des ersatz, hein, de ces grands films des années 80 que l'on a vu.
Oui. Oui, bien sûr. Faut reconnaître que la plupart des films d'action, on va dire, du moins d'aujourd'hui, en fait, c'est le genre de prototype de film où tu en prends plein la vue, mais ça reste très vide. Et on te met des explosions, mais c'est vide, en fin de compte. C'est vide.
Alors, quand j'étais à l'ESRA, je me rappelle que si j'allais à différentes tables, ils me disaient qu'ils rêvaient tous soit de faire un nouveau Star Wars, soit un nouveau Seigneur des Anneaux, soit un nouveau Terminator. Mais c'est comme on dit toujours en France, on a du on a des idées mais pas de pétrole. Donc.
Non, mais même au-delà des idées, c'est-à-dire faut savoir quelles sont les bonnes idées. Parce qu'il faut même reconnaître que même de nos jours, regardez, ils font du Star Wars et... Et voilà, quoi, on voit ce que ça donne, les Star Wars d'aujourd'hui. Je suis pas sûr que je serais fan de Star Wars si j'avais découvert ces films-là étant gamin. C'est, voilà.
Le reproche que j'en faisais à un ami qui m'a montré il y a pas si longtemps la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+, c'est que on est resté dans une vision du futur, mais telle qu'elle était imaginée dans les années 70.
Oui.
Donc, c'est pour ça que on a du mal à avaler ça aujourd'hui en 2022. Hein.
Non, il y a des choses ont évolué, des choses ont changé entre temps et effectivement c'est pas crédible pour un sou et effectivement pour moi c'est non la série Obi-Wan est plutôt horrible à ce niveau-là.
Donc et quelque part maintenant si tu voulais faire du cinéma tu ferais plus quelque chose qui serait dans l'air du temps, mais qui serait un hommage quand même à ces films qui ont bercé ta jeunesse. Hein.
Alors ça c'est une bonne question, parce que on va dire que moi je suis ouvert à tous les cinés et en général c'est plus au feeling. Bien sûr, je souhaiterais bien sûr faire des films comme du Star Wars, des films de super-héros comme Batman et tout ça. Ça, bien sûr, ça ce serait un kiff en vrai. Mais je serais pas contre de faire des films un peu plus, on va dire, terre à terre, des films un peu plus dramatiques, mais qui ont une notion un peu plus, on va dire, réelle, ou même des comédies. Même si dans les comédies, il faut vraiment aller sur de l'improbable par moment aussi. Mais c'est plus au film. Mais après, oui, on me dit demain, tu veux faire Star Wars, je vais pas cracher dessus, j'accepte. Hein.
Et tu le ferais très certainement en bon français que tu es, avec ta sensibilité à ta sauce et pas selon les directives d'un studio. Hein.
C'est ce que je souhaiterais, mais est-ce que ce serait possible, c'est une autre question.
Ah, il y a la French Touch, comme disent les Américains.
Oui, mais la French Touch n'a concerné malheureusement que la musique. Donc, voilà. Mais ils pourront jamais nous l'enlever, ça, c'est sûr.
Ah, Jean-Pierre Jeunet, quand il a fait Alien Resurrection, on lui a quand même laissé assez de liberté dans l'adaptation de la franchise.
Oui, mais parce que Sigourney Weaver était à la production. Et que Sigourney Weaver savait où allait en venir Jean-Pierre Jeunet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Pierre Jeunet, on lui avait proposé un Harry Potter. Et qu'au final, il a refusé. Parce qu'il disait, en fin de compte, j'aurais été là que pour dire action coupée. Parce que tous les décors étaient prêts, les acteurs étaient prêts. Tout était. Voilà, lui, il était juste là un peu pour faire l'artisan, mais rien d'autre.
On peut remarquer en fait dans le mode de production aux États-Unis et en France, c'est qu'en France, par exemple, si on voulait faire un film de science-fiction, vraiment un gros hit en science-fiction, ça mettrait du temps, mais une fois que ce serait décidé, on aurait carte blanche, c'est-à-dire vraiment ce serait open bar. Alors qu'aux États-Unis, ils seraient beaucoup plus enclins à produire tout de suite, donc à accepter le projet, mais par contre avec condition numéro 1, condition numéro 2, pas tant que ça. Et alors là, tu te sentirais complètement enfermé en fait dans un rôle d'employé en tant que réalisateur.
Oui, mais parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la science-fiction, tout ça, en fait, ça plaît beaucoup, mais pas quand c'est fait par les Français. C'est ça le truc, c'est-à-dire que même quand on sort des titres de films de science-fiction, on a du mal à croire que ça existait. On a du mal à croire que ça peut être possible. Et malheureusement, c'est pour ça qu'ils laissent un peu faire. Mais il faut reconnaître les choses, c'est que en France, les films de genre comme ça, on les adore, mais pas quand c'est des Français qui le font. Et c'est pour cela que même les réalisateurs français, que ça soit de genre, voilà, des films de par exemple Alexandre Aja, quand il a fait Haute Tension, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait plus d'entrées aux États-Unis avec Haute Tension qu'en France. Alors que les Américains, ils détestent lire les sous-titres et tout ça. Ils détestent ça. Et pourtant, c'est ça qui lui a ouvert des portes, qui lui a fait faire des Collines à des yeux, des Piranhas et tout ce qui va avec. Et d'autres réalisateurs, bien sûr, français, de films d'horreur, sont arrivés aux États-Unis justement par rapport à ça, par rapport à tout ce que représente ça. Mais maintenant, quand ils font des films en France, ça ne marche pas. C'est malheureux.
Donc, d'où l'intérêt finalement que l'ESRA soit ouvert à l'international, parce que ça peut donner des perspectives à des génies français, mais à l'étranger. Nul n'est prophète en son pays, au fond.
Oui, oui et non, parce qu'il ne faut tout de même pas oublier que ça reste du privé. C'est-à-dire qu'il faut quand même payer pour en arriver là. Et donc, quand tu vas à New York et tout ça, ça coûte très cher. Plus voilà. Donc je pense qu'il faut quand même avoir les moyens d'aller à New York, de pouvoir faire tout ça. Et moi, des fois, je me dis, en fait, avec tout l'argent que tu mets pour aller à New York et tout ça, pourquoi tu mets pas de l'argent ici en France dans un bon projet? Il y a de quoi faire.
Et surtout que nous, Français, nous sommes capables, avec pas grand-chose, de faire mieux que les Américains.
Oui, on peut. Ça a pu être démontré, bien entendu.
Bah, y a des exemples. Par exemple, Playtime en 67. La Tati Ville marchait mieux que les décors pourtant pharaoniques que les Américains avaient à Hollywood.
Oui.
Et même Matt Damon l'a dit dans une interview, vous Français, vous êtes extraordinaires, vous arrivez à faire un film complet et qui marche mieux qu'un film américain avec juste le budget voiture.
Ben oui, c'est pas...
D'une voiture, même, je devrais ajouter.
Et c'est oui, quand on voit Cléopâtre, par exemple... budget faramineux, tout ça, et désastre complet. C'est pour ça que c'est très intéressant qu'on parlait de Last Action Hero, qui est un peu le Cléopâtre des années 90, si on regarde bien. Parce que, voilà, moi, très sincèrement, ce film-là, Last Action Hero, j'adorerais toujours, même si je sais qu'il a des défauts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce film-là avait été un échec à sa sortie. Pour plusieurs raisons, notamment, bon, si on part sur le film en lui-même, Beaucoup de gens ne savaient pas ce qu'ils allaient voir. Ils se demandaient, est-ce que c'est un film d'action avec Arnold Schwarzenegger? Est-ce que c'est une comédie au final? Les gens étaient un peu largués. Mais sinon, sur un point de vue, on va dire, plus de production, ça a été une catastrophe. C'est le film qui, en fait, a gaspillé trop d'argent sur beaucoup de choses très futiles.
Est-ce que tu as d'autres pages comme ça?
Non, en fait, c'est un film qui a voulu trop en faire sur la com. Les contrats mirobolants avec Reebok, par exemple, avec Burger King, pour pas grand-chose, pour un film qui n'est même pas, on va dire, qui ne savait pas si c'était pour les mômes ou pas. Il y a aussi, bien entendu, je sais pas si tu étais au courant, le coup de la fusée,
oui.
La pub sur la fusée.
Bah oui,
complètement. En mode Last Action Hero sera le premier film avec sa pub sur une fusée qui aura décollé 3 mois après la sortie du film et qui finira par exploser en plein vol. Donc non, mais tout ça c'est des coups inutiles ou même l'art de rien, parce que ce qu'il faut savoir c'est que Arnold Schwarzenegger était aussi producteur exécutif dessus. Et il a fait refaire des affiches parce qu'il estimait que sur les premières affiches, ses cheveux n'étaient pas assez gonflés. Et donc, il a fait refaire ça, tout comme pour la compagnie de jouets, qu'il a demandé à arrêter plein de trucs parce qu'il voulait que les figurines du film, lui, il ne voulait pas que Jack Slater, qui est son personnage dans le film, soit vendu avec des pistolets. Et donc toutes les figurines avaient été retirées et refaites. Et on remarquera que dans les collections figurines, le personnage de Jack Slater ne possède pas un pistolet. Ça a été un truc, un gros problème faramineux. D'ailleurs, je conseille, je ne sais pas si tu connais un vidéaste sur YouTube qui s'appelle Monsieur Mea. Il avait fait une excellente vidéo à ce sujet sur Last Action Hero et je conseille aux gens quand même d'y jeter un coup d'œil parce que c'est très intéressant à ce niveau-là.
Toi aujourd'hui, est-ce que tu aurais des projets cinématographiques? Est-ce que tu aimerais tourner quelque chose? Est-ce que tu aurais, une idée de court, de moyen ou même de long? Allez, soyons fous. Hein.
Oui, on va en discuter. Alors très sincèrement, en ce moment, je suis effectivement sur la préparation d'un fan film. Un fan film, en fait, c'est un film qui se fait en partant sur une base déjà existante, comme vous avez pu voir sur du Harry Potter. Il y a eu des fan films de Scream par exemple, et moi mon fan film ce sera centré sur Lex Luthor, qui est le grand méchant de Superman.
D'accord.
Et c'est en préparation, j'ai déjà les comédiens, je vais pas tarder à faire un crowdfunding quand même pour qu'on soit aidé au financement, parce que c'est l'air de rien, même les projets un peu ambitieux quand même, ça nécessite une certaine aide.
Mais bien souvent les fanfilms c'est ce qui cartonne le mieux, on voit déjà, notamment pas simplement les films, mais les jeux vidéo par exemple, les fangames, souvent sont bien meilleurs que les films faits par les studios officiels.
Il y a des trucs comme ça, bien entendu. Et même certains fanfilms, l'air de rien, on parle de fanfilms avec des budgets très maigres, mais qui réussissent à faire ce que certaines grosses superproductions n'arrivent pas à faire. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le terme de fanfilm, parce que j'ai l'impression que ces fanfilms sont vraiment faits par des gens qui adorent cet univers, qui sont vraiment fans, alors que je pense que les films de super-héros faits par les grands studios ne sont pas faits forcément par des mecs passionnés, mais par des gens qui aiment le pognon au final.
Donc c'est un travail de commande et puis ça s'arrête là, quoi.
La plupart, oui, il y a juste à voir les Marvel, franchement, on n'arrivera pas à me citer les derniers réalisateurs des films Marvel. Parce qu'il n'y a pas une patte, c'est juste des mecs qui obéissent à un cahier des charges, on va pas se mentir. Il y en a certains, bien entendu, comme James Gunn, comme Taika Waititi quand même, qui ont apporté leurs pattes et qui ont fait que, justement, on les reconnaisse aujourd'hui. Mais la plupart des autres réalisateurs employés par Marvel, c'est pas vraiment le cas.
Au fond, rien ne vaut la passion, quoi. C'est vraiment ça le moteur pour faire... pour que le cinéma ou n'importe quelle œuvre
personnellement, si je devais faire un film de super-héros, je partirais du principe que si je dois confier un film entre les mains d'un réalisateur, il faudrait que ce réalisateur soit passionné par l'univers qu'il va devoir traiter. pour moi, ça, c'est, je sais pas, c'est évident. Après, pour d'autres, peut-être pas, mais en ce qui me concerne, moi, c'est ce que je ferais. Et c'est pour ça que pendant des années, j'ai l'impression que c'était Warner avec DC. Il y avait un peu de la ratade, parce que c'est bien beau que Zack Snyder, effectivement, soit un mec passionné par les comics, qui connaisse tout le truc. Mais à un moment donné, quand t'as un mec qui est borné sur un truc, même si les idées ne font pas l'unanimité, à un moment donné, faut changer. Faut changer, faut trouver des gens pour leur projet à venir.
Et quel conseil tu donnerais à des jeunes que tu côtoies tous les jours à l'ESRA pour continuer, je dirais, pour redorer un peu le blason du cinéma? Dieu sait que le cinéma est un petit peu en difficulté, hein, et même à la télévision. Parce que là, on a eu une incursion de la science-fiction dans la télévision française avec Vortex. Il y a eu aussi Syndrome E il y a quelques mois. Donc la télévision adopte des codes cinématographiques de plus en plus, mais de toute façon, ça n'éliminera pas le cinéma en tant que tel, puisque le cinéma n'a pas éliminé le théâtre.
Non, bien entendu.
Et même la radio, le podcast, est revenu à la mode.
Oui.
Donc, oui. Mais qu'est-ce qui pourrait lui donner un second souffle, hein? C'est la jeunesse, tu es d'accord avec moi?
La jeunesse pourrait être un second souffle.
Voilà, mais et qu'est-ce que tu leur conseillerais? Parce qu'il faut les encourager aussi, ces petits-là.
Il faut les encourager, ça c'est une réalité. Et moi, très sincèrement, si j'avais un conseil à leur donner, c'est faites le cinéma avec votre cœur. Ne vous fiez pas à ce qui est dicté dans la société ou autre. Ne faites pas du cinéma pour gagner des prix, parce que c'est complètement ridicule. Si vous faites un cinéma pour avoir de la reconnaissance derrière, c'est que vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à montrer, parce qu'au final, le seul truc que vous voudrez, c'est qu'on vous dise merci ou qu'on vous serre les battes.
Ça va, Jérémy, tu vas bien ?
Ça va, toi ? C'est un cinéma que, voilà, il y a juste à voir le comportement de certains mecs au César. Ils sont là pour se regarder le nombril, ils attendent que ça. Faites du cinéma avec de l'amour. Faites en sorte que ce que vous rêviez quand vous étiez môme soit réel. Faites en sorte que, justement, quand vous faites des films, c'est ce pourquoi, quand vous étiez enfant, vous avez voulu faire ce métier. Moi, c'est ça. C'est ça que je leur conseillerais. Faites du cinéma avec votre cœur, pas avec ce qu'on vous demande.
Voilà le message à transmettre aux générations futures, la proche génération,
génération.
Et celles qui suivront aussi.
Mais même, après, bon, je suis pas la science infuse non plus à ce niveau-là, mais je pense que ce conseil-là, c'est pas que pour la jeunesse, c'est même pour des gens accomplis. Je souhaiterais que même des certains réalisateurs accomplis reviennent à ce pourquoi ils ont fait du cinéma. C'est, voilà, que ça soit du Jean-Pierre Jeunet, Michel Gondry, bien entendu, même Luc Besson. Faites ce pourquoi vous avez voulu faire du cinéma. Ne pensez pas au reste. Faites-le avec de l'amour, rien d'autre. Ça marche pas, tant pis. Mais vous y aurez mis votre cœur. Et c'est ça qui est important.
Ben, je te remercie, Jérémy, pour ce propos très inspiré, puis fait avec ton cœur, on le voit aussi.
Oui.
Et je te remercie de ton intervention. Hein.
Ben, c'est moi qui te remercie.
Je remercie également les auditeurs pour leur fidélité. Et puis, à bientôt pour un prochain numéro de La Lanterne Magique. Au revoir. We'll be right back.
them all they come to took you by the hands to stole your money and your time. It's easy to speak about democracy behind your crown when everybody knows you are the devil and you wanna hunt. The game is finished now. We gonna use your girl to build schools and hospitals for the people. We gonna give the money to another.